Chers frères et sœurs et chers amis, notre série que nous commençons aujourd'hui est intitulée « Où jeter l'ancre ?». Ce n'est pas une étude des plus faciles. Et le thème de notre première étude est intitulé « En qui pouvons-nous avoir confiance ?». Chers amis, croire, mais pourquoi ? C'est une question saugrenue et c'est une question même contradictoire. En effet, lorsque on nous demande de croire, ne faut-il pas fermer les yeux, faire en quelque sorte confiance et tout accepter, et surtout ne pas demander pourquoi ? Pourtant, l'homme est en lui-même un ensemble de contradictions, ne peut échapper à celle-ci. Il est prêt à tout croire, mais il faut qu'on lui en explique les raisons. Quoi de plus naturel que cette attitude ? La suprématie de l'homme sur les animaux et sa faculté de pouvoir penser. Pascal écrivait « L'homme est visiblement fait pour penser, c'est toute sa dignité et tout son mérite, mais tout son devoir est de penser comme il faut. L'homme est par nature un chercheur, il est avide de savoir, il s'efforce de tout connaître bien que la partie semble perdue d'avance. » En effet, plus les connaissances augmentent, plus l'univers s'élargit. Nous rions aujourd'hui à l'idée que les Grecs de l'Antiquité, dans toute leur sagesse, aient pu s'imaginer le monde comme un vaste plateau recouvert d'une cloche percée d'ouvertures appelée étoile. Il y a quelques années, on imaginait la conquête de la Lune comme une fin, tandis qu'elle est considérée aujourd'hui comme un commencement. L'homme qui cherche est comparable à celui qui monterait, par exemple, sur une tour, et à chaque marche de l'escalier qu'il gravit, l'étendue qu'il peut capter du regard devient plus vaste. L'horizon que l'on pouvait considérer comme une fin se déplace. L'homme ne demande qu'à croire parce qu'il déteste se mouvoir dans l'inconnu. Et lui expliquer une vérité, c'est lui procurer la sécurité. Nous sommes tous en état d'insécurité sur cette terre, ne sachant ni d'où nous venons, ni où nous allons, et nous réagissons en recherchant notre raison d'être, celui qui échappe à cette loi, échappe à une loi de la nature, de l'agriculteur au médecin. Chacun est placé quotidiennement en face de la réalité de la vie qui refuserait de se mettre à la recherche de la source de la vie, eh bien, il ôterait à l'homme sa seule supériorité, c'est-à-dire celle de la pensée. Chercher, oui, chercher cet objet de la foi, appelé Dieu ou Allah, ou l'être suprême, ou encore le grand architecte, c'est être véritablement homme. Il faut en faire un point d'honneur. Il y va de notre dignité. Il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui ont abandonné la lutte et qui qualifient de lâche ou de ridicule un sentiment légitime. Dans cette recherche, il est logique de se tourner vers ceux qui disent connaître Dieu. Mais quelle n'est pas notre déception de voir que le dialogue entre croyants et incroyants est tellement difficile. Oui, c'est un dialogue de sourds, souvent. C'est une sorte de guerre froide où les antagonistes se guettent, restent chacun sur sa position. L'un croit et n'accepte pas qu'on cherche à expliquer pourquoi. Et en toute raison, l'autre jugera sa croyance aveugle, fanatique ou mystique, tandis que il est lui-même jugé incrédule ou homme de mauvaise foi. C'est une mauvaise foi que la foi du croyant qui n'accepte pas que l'incroyant puisse être de bonne foi. Aussi, allons-nous tenter ici de rétablir ce dialogue en disant aux croyants « Vous avez des interlocuteurs valables. Oui, leurs arguments sont parfois déconcertants, d'accord, mais ils peuvent être de bonne foi. » S'agit-il maintenant de joute intellectuelle? Absolument pas. Il est inutile d'essayer une démonstration visant à prouver la foi. Ceux qui s'y sont hasardés ont totalement échoué. En revanche, il est possible de tenter un rapprochement entre la raison et la foi. L'une ne s'oppose pas systématiquement à l'autre. Et à l'incroyant qui interroge, croire, mais pourquoi? Le croyant doit donc s'appliquer à donner quelques raisons de sa foi, c'est la moindre des choses. Il existe, voyez-vous, des pensées devenues quasi proverbiales, volontiers avancées, pour défier le croyant. Tout d'abord, essayons de voir ensemble les 6 points sur « je ne crois pas ». Premièrement, je ne crois pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Dieu. Voltaire et Pascal, si opposés soient-ils, reconnaissent tout de même la nécessité de Dieu. Je ne puis pardonner à Descartes. Il aurait voulu, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer carrément de Dieu, mais il n'a pas pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Et après cela, il n'a plus que faire, il ne sait plus que faire de Dieu, a dit Pascal. Voyez-vous, Dieu parle et le chaos se dissipe à sa voix, reconnaît à son tour Voltaire. La croyance d'un Dieu qui récompense les bonnes actions et qui punit les méchants, et la croyance la plus utile du genre humain, c'est le seul frein des hommes puissants qui commettent insolemment, on peut dire insolément, hein, c'est une insolence, des crimes publics. C'est carrément le seul frein des hommes qui commettent adroitement des crimes secrets, n'oublions pas. Éprouver l'existence de Dieu n'est pas dans les attributs de l'homme. Si son existence était évidente, il n'y aurait plus de foi, plus de choix, plus de liberté. Essayons toutefois de comprendre les bonnes raisons de l'incroyant. Il faut tout d'abord que l'homme admette que certaines notions lui échappent. Le mouvement perpétuel, la sixième dimension, parce que ces questions touchent au problème de l'infini, tandis que l'homme est très limité, n'oublions pas. S'il parvient à imaginer un infini positif graphiquement par une ligne qui, partant d'un point, n'aurait pas de fin, et temporellement par un temps qui ne finirait pas, il est mal aisé de saisir la notion d'un infini négatif, c'est-à-dire d'une ligne ou d'un temps qui n'a jamais commencé. Essayez de remonter l'échelle de l'évolution de l'homme. Vous pourrez toujours poser la question « et avant ?» Et avant, hein ? En passant par tous les animaux de la préhistoire, vous arriverez à la cellule vivante et vos efforts se solderont par un échec, car ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir, et avant, et encore avant, comment est-elle devenue vivante? Et si c'est à partir de l'hydrogène qu'elle l'est devenue, d'où vient le premier atome d'hydrogène? Notre esprit arrive mal à saisir la notion de l'infini qui n'a jamais commencé. Et pourtant, nous sommes obligés d'admettre ce fait comme existant puisque, voyez-vous, nous pouvons toujours poser la question « et avant ?» Et avant. Si ce fait existe et que je ne le saisisse pas, c'est que mon intelligence est donc bien limitée. Mais l'avant toute chose que l'on peut appeler aussi le commencement ou le créateur n'en existe pas moins, hein? Ça, c'est des questions un peu délicates. Aussi, comme vous le savez, chers amis, notre corps est destiné à la destruction, que vous le croyez ou pas. Mais la force qui l'anime, la vie, est indépendante de ce corps et elle continue à exister. Les croyants l'appelleront la vie éternelle. Les incroyants appelleront cela la descendance. Voyez-vous, l'athée, c'est un homme qui, ne pouvant répondre à une question, nie carrément la question. Et il se trouve dans l'obligation, pour satisfaire la raison, de remplacer Dieu par une hypothèse bien plus invraisemblable, à savoir que la rencontre fortuite de forces capricieuses se déplaçant au gré du hasard et dans un univers sans loi serait à l'origine des mondes, ce qui tombe naturellement sous le coup de l'inférence statistique. L'éminent savant russe Alexandre Oparine écrit ceci. Un simple calcul statistique montre qu'il faudrait plus de temps pour que l'ADN se construise par hasard que les 10 milliards d'années qu'a duré l'univers. Dire « il n'y a pas de Dieu » est plus que déraisonnable, c'est déloyal, c'est incohérent et beaucoup trop limitatif, car si un athée est capable de penser que Dieu n'existe pas, un autre peut penser l'inverse, et cette capacité d'évoquer l'idée de Dieu ou de la rejeter est le propre de l'homme depuis qu'il serait devenu homo sapiens. Mais alors, d'où le premier homme a-t-il tiré un tel concept qui, de toute évidence, le dépasse? De toute manière, voyez-vous, les sciences physiques sont bien d'accord pour dire que les mondes et ce qu'ils contiennent, à savoir la Terre et l'homme dans notre cas particulier, proviennent nécessairement, selon la loi de la dégradation, de l'énergie, d'une énergie première matérielle. Mais, pour poursuivre logiquement le raisonnement, cette énergie première matérielle, qui a commencé un jour, n'a pas pu venir de rien, monsieur de la Palice, qui lui-même aurait dit, et avec raison, et il a dit « Je ne peux pas faire quelque chose avec rien », ce qui veut dire clairement qu'il existe une énergie infinie et immatérielle, non sujette à la dégradation, de laquelle est issue l'énergie matérielle, la source des mondes cosmiques. La première phrase d'un trait très ancien livre nous dit que au commencement Dieu a créé les yeux, les cieux et la terre. Dieu étant par définition infini et immatériel, peut dès lors, sans offusquer l'athée, être scientifiquement mis à la place de notre énergie infinie et immatériel. Deuxièmement, il y en a qui disent « Je ne crois pas parce que vous appelez Dieu tout ce que vous ne pouvez pas expliquer. » L'apôtre Jean rapporte qu'un aveugle de naissance, harcelé par les questions théologiques du clergé de l'époque, déclare avec une conviction désarmante à ceux qui doutent de sa guérison, « Moi, je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Fort heureusement, des croyants d'aujourd'hui peuvent répondre avec la même assurance, « J'étais paralysé, et je marche. J'étais esclave de la drogue et j'en ai été complètement délivré par la prière. Ceux-là ne seront jamais ébranlés dans leur foi par de tels arguments. Mais tous n'ont pas expérimenté une action divine dans leur vie et l'astuce d'identifier Dieu à l'inconnu peut carrément désarmer. On dit qu'une erreur est dangereuse à cause de la part de vérité qu'elle contient. Et cet argument contient une part de vérité, c'est à savoir que Dieu ne peut pas être autre chose qu'un inconnu pour l'homme. Mais l'argument ne peut pas s'arrêter simplement là. Il faut ajouter que l'homme a pu capter certains aspects de Dieu, car Dieu s'est révélé partiellement à l'homme. Une pensée de Pascal résout admirablement cette question. Dieu a donné des marques visible de lui à ceux qui qui le cherche et non à ceux qui ne le cherchent pas du tout. Il y a assez de lumière pour ceux qui désirent voir et aussi assez d'obscurité pour ceux qui n'en ont cure. Bien sûr, ce qui nous dépasse appartient à Dieu. Il n'a pas permis ou jugé utile de donner une révélation complète à l'homme qui, devant l'évidence, perdrait le libre arbitre et le salut qui réside donc en la foi. Mais voyez-vous, Dieu s'est suffisamment révélé pour être connu. Vous pouvez me croire. Je n'appelle pas Dieu ce que je ne peux pas expliquer, mais Dieu n'est pas, pour le croyant, l'inconnu, pas du tout, mais il est le connu. Gloire à Dieu. Troisièmement, il y en a qui disent, voyez-vous, je ne crois pas parce que la mort est la fin absolue de toute chose. Bon, on entend volontiers ajouter que personne n'est revenu de l'au-delà pour prouver le contraire, encore que le livre et d'autres du docteur Moody infirment aujourd'hui en partie cette assertion. Donc, certains croyants se défendent en face d'une telle affirmation, car parmi tous les dieux qui sont proposés à la foi des hommes, un seul être a osé affirmer qu'il était le seul vrai Dieu et qu'il était venu de l'au-delà pour apporter aux hommes la lumière sur la question de l'immortalité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La perspective de la mort est une arme que Dieu emploie pour que l'homme se préoccupe de la notion d'éternité. Le fait que l'homme soit apte à s'interroger sur l'immortalité de l'âme devrait suffire à prouver que cette question existe et qu'elle le concerne. Il y a trois moyens de la résoudre. Primo, en s'habituant à l'idée de la mort jusque à ce qu'elle soit familière et qu'elle ne nous effraie plus. Secondo, en disant qu'elle est l'abandon du corps et la libération de l'âme. Et tierso, en disant qu'elle est une fin totale. La première solution est un moyen réaliste d'esquiver le problème, mais si raisonnable qu'elle puisse paraître, elle ne résout quand même rien. La seconde se heurte à l'impossibilité d'une démonstration. Et la troisième apparaît plus déraisonnable que la deuxième. En effet, une fin totale implique dans l'image du train sumentionné non seulement la détérioration de l'engin, mais la disparition carrément de la force motrice. La vie, cette vie dont nous reconnaissons chaque jour les chefs-d'œuvre, serait inutile et vouée au néant, c'est qualifier l'absurde d'existence d'un monde dans lequel nous ne voyons que des lois étonnantes de sagesse et de permanence. Quatrièmement, je ne crois pas parce que le monde est absurde. Oui, les écrivains modernes ont marqué la nouvelle génération à force de nier l'existence de Dieu et de répéter que notre monde est absurde. Nous constatons que ce monde devient une absurdité au moment même où l'on en ôte carrément Dieu. Ce n'est pas en quelques lignes que nous apaiserons la querelle qui sépare les existentialistes des théologiens. Pour les uns, l'existence précède l'essence. Pour les autres, l'essence précède l'existence. Prenons plutôt une illustration. La marche à travers le désert est absurde si elle n'a aucun but. En revanche, au moment où on s'engage dans une recherche quelconque, elle trouve un sens. Donc, il reste aux voyageurs cette option, marcher en fonction du but à atteindre, ou marcher sans aucun but, avec le sentiment de l'inutilité de ses efforts. Le croyant a choisi la première option. Il poursuit un but et les découvertes convaincantes qu'il fait au fur et à mesure qu'il avance justifient sa marche et lui fournissent l'énergie nécessaire pour franchir une nouvelle étape. Et c'est ainsi que se définit la foi. La démonstration des choses que l'on ne voit pas et la seconde option n'est pas raisonnable. Si je reconnais que ma marche est absurde et si j'ai conscience de mon inutilité, je dois donc m'arrêter. Ou bien, sachant que je me suis trompé, je persévère dans mon erreur et je suis un orgueilleux, pas plus que cela, qui ne veut pas capituler. Ou bien, quiconque reconnaissant l'inutilité de ma marche, je la continue tout simplement dans l'espoir que je trouverai à l'avenir, un jour ou l'autre, une raison qui justifiera le chemin parcouru. Le philosophe de l'absurde est un orgueilleux ou un voyageur désemparé qui attend de trouver sa route. Cinquièmement, il y en a qui nous disent « je ne crois pas » parce qu'il n'y a pas de justice. On pourrait le penser. En effet, en vertu de cette déclaration, on met souvent en doute l'existence d'un Dieu juste tel qu'il doit l'être si vraiment il existe. D'abord, il y a des injustices dont l'homme est le seul responsable. L'homme est libre et responsable. On cherche trop volontiers à se dégager de cette responsabilité et à imputer la faute à Dieu ou à la société comme un enfant qui, arrivé à sa majorité, refuserait son indépendance en disant « Oh, ce n'est pas moi qui ai voulu venir au monde. Qu'on me prenne en charge jusqu'à la fin de mes jours. » Et une telle démission, c'est de la lâcheté. S'il est normal qu'un enfant soit irresponsable, un adulte qui prétendrait une telle attitude serait, à mon avis, un schizophrène. Il y a aussi des injustices apparentes, parce que nous avons donné aux choses une dimension temporelle. Naître dans la pauvreté apparaît comme une injustice quand d'autres vivront dans l'opulence toute leur vie. Bien sûr, si notre échelle des valeurs est à la mesure de cette vie, nous considérons que les hommes doivent vivre dans une parfaite égalité. Si nous pensons qu'il doit y avoir des récompenses dans cette vie, alors nous pouvons parler d'injustice. Et il est normal que du refus de l'immortalité de notre âme découle une impression d'injustice. Mais prenons un peu de recul et voyons si l'on ne devrait pas, au contraire, s'étonner de l'extraordinaire notion de justice qui règne sur la surface du globe. Quelle uniformité dans la conception du bien et du mal. Malgré les diversités de race, de climat, d'éducation, d'évolution, les mêmes critères demeurent à la base de chaque société. Le droit donc, oui, le droit, l'ordre, la soumission à l'autorité, le sens de l'honneur. Tandis que on bannit partout le mensonge, le crime, l'immoralité, la rébellion et la violence. Qu'une société humaine essaie donc d'établir d'autres principes, croyez-moi, elle court carrément à sa ruine. L'histoire en fait la preuve. L'utilisation universelle des mêmes critères du bien témoigne de l'uniformité du sens de la justice. Tu ne tueras point, c'est la loi naturelle qui assure la conservation de la vie, signature filigranée de celui dont le bien est l'image. Et sixièmement, d'autres disent « je ne crois pas » parce que Dieu ne peut en aucun cas être à la fois juste et bon. Eh bien, voyons un peu cela. En effet, on peut poursuivre le raisonnement très habilement en soutenant aux croyants que si Dieu est juste, il punit, donc il n'est pas bon. Et si Dieu est bon, il pardonne, donc il n'est pas juste. Pour réfuter cet argument, il faut au préalable débarrasser notre esprit de toute l'imagerie qui entoure la personne de Dieu. Nul ne peut prétendre avoir une idée exacte de ce qu'il est pour nous humains. Oui, ce que Dieu représente pour nous. Et les termes de « bon Dieu » par exemple, ou de « petit Jésus » ont été inventés pour réduire sa dimension. D'autres ont fait de Dieu une divinité tyrannique, comme en quelque sorte pour échapper à sa notion de pardon. Donnons, chers amis, plutôt de Dieu l'image d'un père. N'est-elle pas la plus juste? Un père considère ses enfants comme étant à son image. Un père pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Un père désire l'obéissance de ses enfants et ils s'affligent de leur souffrance. Un père est sévère, mais ceci par amour pour ses enfants, car il sait ce que l'avenir leur réserve. Un père peut donc punir sans faillir à la loi d'amour, car il sait que le seul moyen d'être bon à la longue, c'est pour le bien futur de l'enfant. C'est donc d'être juste, ferme et de parfois sévir. Voyez-vous, Dieu doit nécessairement posséder les deux attributs de bonté et de justice. Et il est faux de vouloir prouver leur incompatibilité. Une bonté sans justice autorise le mal. Dieu n'est plus identifiable au bien. Réciproquement, une justice sans bonté devient tyrannique et Dieu se désolidarise de l'homme en faisant de lui un esclave. Un Dieu qui chercherait à satisfaire son besoin de puissance plus qu'il ne se préoccuperait du bien de l'homme. Je crois qu'un tel Dieu ne serait plus identifiable au bien. Je répète, une bonté sans justice autorise le mal. Dieu n'est plus identifiable au bien. Réciproquement, une justice sans bonté devient tyrannique et Dieu se désolidarise de l'homme en faisant de lui un esclave. Or, un Dieu qui chercherait à satisfaire son besoin de puissance plus qu'il ne se préoccuperait du bien de l'homme ne serait plus identifiable au bien. Voyez-vous, même des chrétiens disent, mais pourquoi Dieu a-t-il permis le mal? Si Dieu se préoccupe vraiment de notre sort, pourquoi nous a-t-il fait enclin à pratiquer le mal? Pourquoi la maladie? Pourquoi la guerre? Pourquoi la mort de l'innocent? Nous avons vu que Dieu s'est révélé à l'homme d'une manière partielle en raison d'un obstacle qui fausse cette relation du Créateur à la créature. Et cet obstacle s'appelle péché. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a fait enclin à pratiquer le mal, c'est-à-dire qu'il nous a fait pécheurs. Il nous a créés libres, c'est cela, libres de conserver notre nature divine ou de la perdre. Dieu ne nous a pas fait pécheurs, mais nous sommes devenus pécheurs. C'est ça, voyez-vous. Je répète, Dieu ne nous a pas du tout fait pécheurs. Mais nous sommes, hélas, devenus pécheurs. Dieu nous a créés pour accéder à la divinité, à la gloire. Mais qui dit gloire, dit aussi victoire. Et qui dit victoire, dit forcément combat, une lutte. Et la lutte de l'homme pour parvenir à la gloire promise passait et passe toujours par le choix entre vouloir mettre Dieu à la première place ou se mettre moi à la première place. En est-il autrement de l'amour, chers amis? L'amour désintéressé entre deux êtres se traduit par le sentiment profond de lui avant moi, ou d'elle, et je dirais par exemple une pharmacienne que j'aime beaucoup, et surtout que moi je ne sois pas avant elle. Donc, Dieu nous a créés pour la gloire. Il nous a créés à son image, par un acte d'amour désintéressé. Et l'homme passe à côté de l'image de Dieu et de la gloire qui lui est réservée par un acte d'égoïsme. Moi avant lui, moi avant elle. Ça jamais, c'est pas bien. C'est la source du péché. Et lui, Dieu, ne le force pas. Il le laisse seul, tout seul, sans la gloire divine. C'est la résultante du péché. Voyez-vous, nous reprochons encore à Dieu la maladie, la mort, la guerre, qui sont pourtant la conséquence du péché. Les hommes persistent dans la désobéissance au lieu de se réconcilier avec ce Dieu qui n'aurait plus de raison de faire souffrir l'homme au moment où il suivra ses lois. Il y en a qui disent « Oh, moi, je peux me passer de la religion. » Oui, moi aussi, mais voyons un peu ça de plus près. Dans cette attaque contre la religion et avec les libres penseurs, on ajoute volontiers un certain nombre de slogans. La religion, c'est l'opium, oui, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est un marchand d'illusions. La religion est la consolation des déshérités. Toutes les religions sont plus ou moins bonnes. Les chrétiens ne sont du reste pas meilleurs que les autres. J'avoue que dans un sens, moi non plus. Mais attention, je me rends à l'évidence, vous avez raison, on peut se passer de la religion d'un Dieu qui est mort, d'accord? Et cette religion-là, et celle des marchands d'illusions, cette religion-là est un opium pour le peuple parce qu'elle lui laisse entendre que l'homme peut se sauver lui-même par ses propres œuvres ou par certains sacrifices. Elle laisse entendre que la justice de Dieu peut s'acheter. Il est un fait que vous pouvez vous passez de la religion si Dieu est un Dieu sourd, qui n'entend pas votre prière, qui se détourne de l'homme ou qui condamne selon son bon plaisir. Mais pour ceux qui invoquent un Dieu vivant, qui répond à l'accomplissement de ses promesses par la délivrance du péché, par la guérison du corps, par la transformation d'une vie au plaisir factice en joie, paix et sérénité permanente du cœur, eh bien, ceux-là ne peuvent se passer d'un culte de reconnaissance envers le Dieu dont ils ont vu carrément la puissance à l'œuvre. N'allez pas dire à ce moment que cette religion-là est la consolation des déshérités. Elle est bien plutôt le lot de privilégiés, oui, on peut dire, c'est en quelque sorte le lot de privilégiés, des privilégiés qui commencerait à s'efforcer, et ceci maladroitement parfois, à faire partager le bonheur qu'ils ont découvert. Je répète cela parce que je viens de sortir d'une bronchite et c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais allé ce matin chez une adorable pharmacienne pour obtenir un médicament. Ce n'est pas défendu, car Dieu nous a donné des plantes, des racines, toutes choses naturelles pour aider notre corps quand il en a besoin. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas prier, bien au contraire. Mais Dieu autorise aussi que nous puissions utiliser des moyens qu'il nous a mis à disposition. Donc, j'espère d'arriver au bout de cette étude, malgré que ça va pas très fort avec ma gorge. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de cette adorable pharmacienne. Donc, chers amis, raisonnons un peu ensemble. Si vous le voulez, les seuls déshérités sont certainement pas ceux qu'on pense. Et je voudrais dire que, si vous le voulez, ces déshérités sont de deux choses l'une. Écoutons bien. Sont, premièrement, parce qu'ils sont déshérités sur la terre. Ce sont des déshérités des circonstances de notre vie catastrophique actuelle. Quand on pense que tout à l'heure, tout un pays est à la faillite, pas loin de chez nous, eh bien, ils sont débarrassés une foi consolante. Ils ont donc été débarrassés d'une foi qu'ils n'auraient pas dû être débarrassés. Mais il nous faut au contraire embrasser une foi qui est consolante pour nous promettre un monde meilleur, ou bien parce qu'ils sont plus prompts à reconnaître les limites de l'homme, eh bien, ils ont accepté Dieu sans réserve. On rencontre donc incontestablement les deux catégories, mais tandis que les uns se lancent dans la sécurisation, eh bien, les autres, déjà dans la révalorisation, qui est le plan même de Dieu pour l'homme, ils ont compris qu'on peut vivre différemment. Par exemple, le chrétien authentique, c'est qui ? Le chrétien authentique est celui qui, reconnaissant que Jésus est le Messie, conforme sa vie, ma vie, à l'enseignement de l'Évangile et qui croit que la Bible est la révélation de Dieu et ne reconnaît entre lui et Dieu d'autres autorités doctrinales que celles du Saint-Esprit. Ceci, quelle que soit l'étiquette religieuse de son mouvement. Je répète, le chrétien authentique est celui qui, reconnaissant que Jésus est bel et bien le Messie et qu'il conforme donc sa vie à l'enseignement de l'Évangile et qu'il croit que la Bible est la révélation de Dieu et reconnaît entre lui et Dieu d'autres autorités, hein, d'autres autorités doctrinales que celles du Saint-Esprit, qu'il reconnaît bien qu'il n'y a pas d'autres autorités doctrinales que celles de l'Esprit-Saint. Ceci, quelle que soit l'étiquette religieuse de son mouvement. Chers amis, voyez-vous, nous pouvons faire sommairement deux classes d'inadaptés. Primo, ceux qui refusent d'endosser la responsabilité de leur échec et en accusent autrui et font donc de l'agressivité. Et deuxièmement, ceux qui reconnaissent leur faiblesse et souffrent de ne pas pouvoir s'en libérer. Eux, ils font de la culpabilité. On ne peut sortir de cet état de crise sans concilier les deux attitudes suivantes. Le repentir et l'engagement. Je répète, le repentir et il nous faut l'engagement. Voyez-vous, pour se libérer de l'agressivité, il faut endosser la responsabilité de sa faute. Et cette abdication du moi, c'est déjà un repentir. Donc, l'Évangile, oui, voyez-vous, l'Évangile n'écrase pas la personnalité. Bien au contraire, la révalorisation du moi par cette thérapeutique procure la sécurité, la paix, la joie, exempte d'orgueil. Bien qu'ayant été déterminé par notre propre engagement, cette libération, nous désirions la faire partager aux autres et nous passons ainsi dans la phase active du témoignage. Or, voyez-vous, un malade qui passe dans la phase active doit être regardé comme guéri. Qu'y a-t-il de déraisonnable dans ce programme ? Voyez-vous, au moment où l'homme reconnaît ses limites et sa faiblesse, il lui est proposé trois issues. Voyons cela de très près. Soit se révolter dans l'agressivité, soit se replier dans la culpabilité, ou de s'épanouir dans la libération. Je crois que ça vaut la peine de le répéter. Au moment où l'homme reconnaît ses limites et aussi sa faiblesse, il lui est proposé trois issues. Soit se révolter dans l'agressivité, soit se replier dans la culpabilité, ou de s'épanouir carrément dans la libération. Seule cette dernière est souhaitable et réalisable après un acte d'abnégation suivi d'un acte de substitution. Autrement dit, dans un langage évangélique, un acte de repentance suivi d'un changement de vie. Il en résulte un changement radical. Et c'est pourquoi il n'y a rien de plus faux que de prétendre que les chrétiens authentiques ne sont pas meilleurs que les autres, car aux yeux de Dieu, ils ont atteint le but que celui-ci avait originellement assigné à l'homme. Ils ont donc par là retrouvé leur nature divine et la vie spirituelle qui en découle, Dieu étant devenu leur Père. Il les attire à lui. Preuve en est l'extraordinaire vie par la foi de chrétiens d'hier, tels que les apôtres et les martyrs, et ceux d'aujourd'hui, tels que Pascal, Livingston, Pasteur, etc. Nous sommes donc enclins à juger les autres pour nous justifier en disant, par exemple, si nous n'avions pas de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en découvrir chez les autres. Ainsi, lorsque nous parlons des chrétiens authentiques qui ne sont pas meilleurs que les autres, d'accord, nous nous faisons redresseurs de tort, mais nous nous leurrons en croyant nous justifier de la sorte, car en effet, un condamné captif n'est pas meilleur qu'un condamné amnistié. Celui qui est amnistié n'est pas non plus meilleur que le captif, mais voyez-vous, il est libre. Ça change tout. Il est libre et pas l'autre. Là est toute la différence. Je répète, un condamné captif n'est pas meilleur qu'un condamné amnistié. Celui qui est amnistié n'est pas non plus meilleur que le captif. Mais, attention, il est libre, tandis que pas l'autre. Là est toute la différence. Un bon nombre de personnes disent également « Oh, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, pas du tout. » Bon, pourquoi pas ? Cette déclaration a au moins la qualité d'être franche, mais elle est très dramatique quand elle est sincère. On peut admirer, dans une certaine mesure, celui qui lève une arme pour se suicider, mais on ne peut pas se retenir de l'en dissuader. D'abord, il faut relever la contradiction qu'il y a à dire « Je sais que Dieu existe, mais je me passe de lui, car je veux ma liberté. » De deux choses l'une, j'ai la conviction que Dieu n'existe pas et j'agis à ma guise. Ou alors, je crois en Dieu et j'organise ma vie en fonction de la destinée qu'il m'a réservée. En fait, cet argument qui voudrait être au mépris de Dieu et au mépris de notre propre vie, cela équivaut à un suicide ou à un crime prémédité. Il n'y a pas de salut possible pour celui qui ignore tout de la navigation et de la destination de son navire. Il veut se révolter contre le commandant et prendre à lui seul la barre. Il serait donc plus sage qu'il se soumette aux ordres de son supérieur en toute confiance et qu'il collabore à la bonne marche du bâtiment pour jeter l'ancre à bon port. Car, voyez-vous, si vous n'avez pas besoin de Dieu, lui, au contraire, a besoin de vous. Si étonnant que cela puisse paraître, son œuvre ne peut pas se poursuivre sans la collaboration des hommes. Sa puissance n'en éclate pas moins tous les jours dans les lois de la vie. Dieu est un Dieu d'amour, et il a choisi de s'intéresser à l'homme. Il s'est appliqué à son rachat et confie à ceux qui ont accepté son salut une merveilleuse mission. Et cette mission consiste à être son témoin. Là est toute la question. Voici donc la réponse que nous vous proposons. Lancez avec sincérité un défi à Dieu. Demandez-lui d'intervenir dans votre vie parce que vous désirez vous libérer et la mettre en ordre. Dieu répondra, et vous pourrez à votre tour témoigner que Dieu est vivant. Osez demander une intrusion de Dieu au nom de Jésus-Christ dans un domaine bien précis de votre vie privée, intime, cachée, et il vous donnera un signe si vous en avez besoin pour croire en lui. Ouvrez la Bible, emparez-vous d'une promesse quelconque de la parole de Dieu et faites-la vôtre, tout simplement par la foi, afin d'être délivré d'un péché secret, d'une maladie, d'une passion qui vous empoisonne la vie. Il peut et veut apaiser vos doutes. Tout cela, il peut le faire aujourd'hui comme Jésus-Christ l'a fait hier. Et quand Dieu sera ainsi intervenu personnellement dans un détail de votre vie selon les modalités de sa parole, la Bible vous ne posera plus jamais de questions. Croire, oui, croire pourquoi? Mais, chers amis, avant de se lancer dans de telles expériences, plusieurs auditeurs peuvent logiquement se poser la question « Comment savoir si la Bible est vraiment authentique ?» Eh bien, ce sera notre prochaine étude. Et en attendant, chers amis, et avant de prier ensemble, je voudrais vous dire quelques paroles de chercheurs sincères, des personnes qui, au XIXe siècle, ont médité profondément la parole de Dieu et nous ont laissé quelques mots, quelques pensées, telles que celles que je voudrais vous dire avant de terminer la prière avec vous. Trois pas seulement jusqu'au ciel. Oui, trois pas seulement. Que veux-tu dire par là? C'est très simple. Voici le premier pas. Rejette ton ancienne façon de voir et de vivre et meurs à toi-même. Et voici le deuxième. Confie la direction de ta vie à Jésus-Christ. Laisse-le entrer dans ton cœur. Comme le dit la Bible, revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Romains chapitre 13, verset 14. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Et voici le troisième. Entre au ciel. C'est si simple que cela. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien tu as passé de la mort à la vie. Chers amis, voici l'expérience d'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Écoutons un peu ensemble cela. Premièrement, il y a la condamnation. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 20. Deuxièmement, il y a la substitution. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains chapitre 5, verset 6. Troisièmement, il y a la nouvelle naissance. Car Jésus-Christ a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Quatrièmement, il y a le salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Eh bien, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Cinquièmement, il y a le pardon. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus du tout de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. J'efface carrément tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc, reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 44, verset 22. Sixièmement, l'amour insondable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile de Saint Jean, toujours, chapitre 15, verset 13. Et septièmement, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si vous m'aimez, eh bien gardez mes commandements. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 15. Et quelles sont, chers amis, vos expériences? N'hésitez pas à faire vôtre celle que nous venons de mentionner. Commencez dès aujourd'hui, tout simplement, à louer Dieu parce que il y a plus de mérite dans le sang de Jésus-Christ que de démérite dans notre péché. Nous allons maintenant terminer ensemble par la prière. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Il n'y a qu'un seul moment dans ta colère, mais il y a toute une vie dans ta faveur. Quand j'étais dans la prospérité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Mais sitôt que tu as caché ta face, je suis devenu tout éperdu. Éternel, je crie à toi. Mon cœur a eu confiance en toi et j'ai été secouru. Je me réjouis dans ta bonté parce que tu as regardé mon affliction et que tu as pris connaissance des détresses de mon âme. Éternel, mes temps sont en ta main, car l'Éternel regarde des cieux et voit tous les enfants des hommes. Il prend garde du lieu de sa demeure sur tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun et qui prend garde à toutes leurs actions. L'homme puissant n'échappe point par sa grande force, mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'affligé a crié. Et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. Oh, que heureux est l'homme qui se retire vers lui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur rompu, et il délivre ceux qui ont l'esprit brisé. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. La justice, ta justice, est comme de hautes montagnes. Tes jugements sont un grand abîme. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. La source de la vie est avec toi, et c'est par ta lumière que nous sommes éclairés. Éternel, donne-moi à connaître ma fin, et quelle est la mesure de mes jours, que je sache de combien petite durée je suis. Certainement, tout homme qui subsiste n'est pas que vanité. L'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. Certainement, il se tourmente souvent en vain. On amasse des biens et l'on ne sait que les recueillir, qui les recueillera. Et maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon attente est à toi, ô Éternel. Écoute ma requête, prête l'oreille à mon cri. Ne m'épargne point tes compassions. Que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Ne me délaisse point et ne m'abandonne point. Tourne ta face vers moi. Je remets mon esprit en tes mains, car tu m'as racheté, ô Éternel, et je me retire sous l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Amen. Et chers amis, voyez-vous, vous pouvez croire en Dieu. Et ce n'est pas parce que parfois, comme j'ai dû le faire ce matin en allant à la pharmacie pour chercher un médicament tout à fait naturel du reste, ce n'est pas un manque de foi. C'est permis, mais nous pouvons aussi, surtout, prier pour que un médicament, parfois nécessaire, puisse agir doublement, triplement. Et Dieu le fait. Il le permet. Donc, je ne croyais pas du tout que je pourrais parler ce message jusqu'au bout. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, un manque de foi. Mais, même si nous sommes encore imparfaits dans la foi, Dieu, lui, il nous secourt, il nous tend la main, il ne nous abandonne jamais. C'est ça l'amour de notre Dieu et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime, et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis, et à bientôt à nouveau, puisque cette étude est loin d'être terminée. Elle fait que de commencer. À bientôt, chers amis. Au revoir.